Ulivendish, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des référendums au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est un organisme qui se veut démocratique, en tout cas, elle se revendique comme telle. Est-ce que, selon vous, cette Union européenne est favorable au référendum?
Alors écoutez, on pourrait se demander évidemment si vous plaisantez et si vous voulez faire une blague. Cela, pourquoi? Parce que ces derniers temps, on voit de plus en plus de personnalités politiques liées à l'Union européenne, au Parlement ou autres, qui prennent position clairement contre les référendums dans les différents pays en faisant partie et qui seraient tentés d'en faire. On peut se demander si il n'y aura pas bientôt des cordons sanitaires autour de chaque pays, comme on l'a fait déjà avec certains des pays lorsqu'ils ne votaient pas de manière qui convenait à l'Union européenne. Alors, vous savez que un des prochains référendums prévus qui aura lieu, et on voit là l'opposition qui vient des pays d'Europe de l'Est, l'Europe orientale, par rapport à cette Union européenne autoritaire. On peut d'ailleurs se demander si elle n'est pas en train de devenir carrément totalitaire, ou en tout cas en avoir certaines caractéristiques. C'est donc la Hongrie qui ne veut pas se laisser imposer des migrants de manière obligatoire, un certain nombre répartis suivant les pays. Et on a même déjà le libellé de la question qui sera posée aux Hongrois. Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocation obligatoire de citoyens non hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois? Voilà sur quoi vont se prononcer les Hongrois. Là, c'est un exemple. Mais vous voyez, ce dévoiement autoritaire de l'Union européenne, il faut surtout savoir que ce n'est en rien nouveau. Je voudrais prendre l'exemple, quand même très célèbre, de l'Autriche dans les années en 2000, très exactement, en l'année 2000, lorsque le gouvernement était prévu entre les conservateurs et le fameux Jörg Haider, c'est pas, qui s'appelait en fait Parti de la Liberté et qui était considéré comme d'extrême droite, n'est-ce pas, toujours quand il y a un mouvement populiste. Alors, en 2000, l'Union européenne n'était composée que de 14 pays, et lorsque ce projet d'union entre les conservateurs et Haider au niveau du gouvernement fédéral d'Autriche a été prévu, l'Union européenne de l'époque est immédiatement intervenue avec un communiqué extrêmement dur de la part de la présidence. À l'époque, c'était le président portugais de l'Union, qui a fait savoir que les gouvernements de 14 États membres ne prendront pas l'initiative ou n'accepteront pas de contact officiel au niveau politique avec un gouvernement autrichien, incluant le FPE, donc le parti de Haider. Vous voyez le ton qui avait été donné, et à ce moment-là, on parlait de cordon sanitaire, on voulait boycotter l'Autriche. On l'a fait, mais c'était tellement ridicule que finalement l'Union européenne a dû revenir en arrière. Mais il faut quand même encore livrer une ou deux citations de ce que l'Union européenne avait fait et dit à cette époque. Les capitales européennes voulaient s'arroger un droit de regard sur la composition des gouvernements des pays membres. Et l'Union européenne avait menacé d'une quasi-rupture des relations bilatérales entre l'Autriche et les 14 autres membres. Qui avait transmis ces ukases, pour le moins autoritaires? Rien à voir. Voyez-vous cette contradiction entre l'Union européenne qui se revendique de la démocratie et des droits de l'homme, grand éclat de rire. Eh bien, c'était le Premier ministre portugais António Guterres qui avait transmis ses ordres à l'Autriche. Jamais, voyez-vous, on ne dit que certaines de ces personnes, Guterres, est un socialiste pur et dur, ce n'est jamais dit. On se peut se demander si ce n'est pas parce que les socialistes perdent les couches populaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, justement, ils veulent imposer les migrants en millions. On peut se demander s'il n'y a pas aussi là derrière l'idée de remplacer les classes ouvrières et populaires par des migrants qui, une fois présents, seront sans doute régularisés, voire naturalisés, et finalement représenter une force politique supplémentaire pour ces personnes-là. C'est une question, évidemment. Mais écoutez encore, en 2000 toujours, ce qui était signifié à l'Autriche, les 14 chefs d'État et de gouvernement ont ajouté qu'ils n'apporteront pas leur appui aux candidats autrichiens à des postes dans des organisations internationales, et que les ambassadeurs autrichiens dans les capitales de l'Union européenne ne seront reçus qu'au niveau technique. Vous voyez, un véritable boycott, est-ce que c'est ça la démocratie et les droits de l'homme? Et je cite des communiqués effectifs et réels, transmis donc par des socialistes. Donc en fait, bien sûr, c'est l'Union européenne, vous vous rendez compte, qui voulait nommer carrément, décider de la nomination des gouvernements dans les pays nationaux.
Oui, alors ils sont démocratiques, sauf quand il s'agit des populistes.
En effet, alors voyez, le glissement est évidemment très rapide du référendum au populisme. N'est-ce pas? Qui dit référendum, dit forcément, lorsque les référendums ne vont pas dans le sens de ces élites européennes autoritaires, alors à ce moment-là, elles sont en désaccord. Mais lorsque les référendums sont positifs, vous pensez bien qu'on les accepte. Et comme si les référendums étaient nécessairement populistes, ça veut dire que on n'a pas confiance dans les citoyens qui sont pourtant dans tous les pays européens largement éduqués, responsables, des citoyens qui sont capables de prendre des décisions, mais qui évidemment ne conviennent pas à une Union européenne elle-même de plus en plus qui amène ces pays européens justement dans une situation pour le moins catastrophique. Eh bien non, on insiste, on veut plus d'Europe, on veut la centraliser encore davantage, ça veut dire empêcher les populations évidemment, de se prononcer par référendum, par exemple. Donc ces tendances de fond, il faut bien les voir, je crois que c'est très important. Et vous voyez, j'ai pris l'exemple de l'année 2000, mais tout récemment encore, à part les pays de l'Europe de l'Est qui, eux, osent agir, eh bien, des députés au Parlement, par exemple, ben, vous vous souvenez qu'en France, évidemment, en 2005, quand la Constitution européenne a été refusée, une autre stratégie, c'est qu'on n'en tient tout simplement pas compte. Mais comme on voit que ça ne suffit pas, on va finir par les interdire. Et c'est ce que demandent aujourd'hui certains responsables européens de différents partis, souvent de nouveau, de gauche et même des Verts, et bien sûr des socialistes. À propos du vote des Irlandais, en 2005 également, que disait par exemple une certaine Eva Joly, c'est pas une agitée verte mais en réalité de gauche, confuse comme personne, on leur posera la question jusqu'à ce qu'ils disent oui. Rendez compte, et d'ajouter l'arrogance des Irlandais qui avaient osé dire non. Alors, voyons encore, référendum il y a eu aussi aux Pays-Bas, en Autriche, là, ça a plus ou moins marché, mais ensuite, c'est en Grande-Bretagne maintenant, vous devinez l'immense peur du Brexit, quelles sont les stratégies avancées? Évidemment, on prétend que ce sera une catastrophe économique, une catastrophe financière. La Grande-Bretagne a très bien vécu avant d'être dans l'Union européenne, cela va de soi. Mais vous verrez, il y aura une propagande absolument inouïe. Eh bien, britannique toujours, une députée, Rebecca Harms, verte, Alliance libre, les questions relatives à l'Europe devraient être écartées du champ d'application des référendums. Et tenez-vous bien, il était inacceptable que la populace puisse rejeter un accord voté par les parlements. Vous voyez, bien sûr, le refus du référendum, mais le mépris du peuple, quand même quelque chose d'extraordinaire, ce qui n'empêche pas, il faut le répéter constamment, de se revendiquer de la démocratie et des droits de l'homme. Autre Britannique, haut fonctionnaire de la Commission européenne, Les référendums sont en train de devenir un énorme problème pour l'Europe. Il faudra bientôt réfléchir à une interdiction totale des référendums en Europe. Actuellement, c'est dit cela, c'est actuellement. Il y en a un autre, Jean Hasselborn, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Voilà ce qu'il a déclaré. Le référendum n'est pas un outil approprié pour résoudre des questions complexes dans une démocratie parlementaire. Vous avez entendu, dans une démocratie parlementaire. Si vous voulez détruire l'Europe, alors il suffit de faire plus de référendums. Tout de suite, il faut préciser que ce Jean Hasselborn est un socialiste, encore une fois, et comme par hasard, constamment invité sur les médias en Suisse romande, dans les émissions politiques. On ne dit jamais qu'il est socialiste. Ça devient une référence pour les socialistes suisses qui, eux, évidemment, veulent aussi limiter fortement l'essence même de la Suisse, la démocratie directe, les initiatives populaires et les référendums. Donc,
Excusez-moi, c'est quelque chose qu'on a vu aussi en Suisse avec le référendum d'initiative populaire de l'UDC sur les minarets, où Daniel Cohn-Bendit, qui était député européen, avait de réclamer que qu'on refasse revoter les Suisses sur cette question.
Oui, n'est-ce pas? Lui, l'Antiquité de mai 68, passant sur son activité de pédophile, qui voulait donner des leçons de morale à la Suisse, c'était bien sûr aussi quelque chose de surprenant, mais ces gens-là n'ont aucun scrupule. Toujours, se diront-ils, démocrates. C'est vrai qu'il a une certaine haine de la Suisse, ce qui veut dire en réalité du peuple et de la démocratie. Donc, vous avez tout à fait raison. Maintenant, si vous voulez, il faut aussi rappeler, et je me demande s'il ne va pas y avoir un stade encore au-delà de l'interdiction du référendum. Certes, le populisme se développe. Voyez-vous, maintenant en Autriche, il va y avoir l'élection présidentielle. On vient d'avoir le premier tour. Heureusement que l'espace-temps entre le premier et le deuxième tour, le 22 mai, c'est donc imminent, n'est pas trop long, parce qu'on peut parfaitement imaginer qu'il y aurait eu de nouveau d'immenses manifestations organisées contre ce leader considéré comme, n'est-ce pas, de nouveau extrême droite, bien qu'on hésite un petit peu, on dira plutôt droite radicale, c'est pas divers termes. En réalité, c'est de nouveau quelqu'un de foncièrement démocratique et qui, évidemment, est en train de percer à cause de la question des migrants qui va détruire, on ne le sait pas encore assez, certains des pays véritablement à la longue. Regardez comment ce seul problème des migrants est en train de détruire l'essentiel de nos démocraties européennes. C'est ça le vrai problème. Mais, voyez-vous, les Soros et compagnie n'ont sans doute pas le temps d'organiser des manifestations, de soutenir des manifestations, comme ils l'ont fait en Ukraine et ailleurs, et en Pologne sans doute aussi. Mais il y a un autre stade, c'est qu'on oublie aussi que, par exemple, en Hollande, vous aviez le prétendu populiste Pim Fortuyn qui a été tué, assassiné, abattu. Je crois qu'on disait que c'était un défenseur des animaux. Vous voyez, on n'entend pas très bien, on n'entend pas beaucoup parler de la suite qu'il y a eu, où a passé cet assassin. On parle beaucoup de Breivik en Norvège, mais assez peu de l'assassin de Pim Fortuyn. Comme par hasard, semble-t-il, Nigel Farage, qui est évidemment pour le Brexit et qui est un homme politique remarquable, très critique envers cet autoritarisme de l'Union européenne, a eu un accident en France. Il semble qu'on a pu montrer que sa voiture avait été maquillée. Vous devinez où je veux en venir. Il y a peut-être un dernier stade après l'interdiction des référendums et l'impuissance de voter, de contrer les mouvements dits populistes, alors que ils ne font que révéler les problèmes qui révoltent la population et qui veulent être résolus, c'est qu'on arrive à des assassinats de dirigeants de ces mouvements politiques. On en a des exemples concrets, soyons clairs. Et vous savez, je pense que beaucoup de gens se font aussi du souci pour quelqu'un comme Trump, Donald Trump, aux États-Unis. J'espère simplement qu'il est bien protégé et gardé. Donc, si vous voulez, en conclusion, ce qu'il faut, c'est pas moins de référendums pour l'Union européenne, mais de mon point de vue, plus de référendums, associer bien plus le peuple et écarter les non-élus qui dirigent l'Union européenne de manière de plus en plus autoritaire, il faut le rappeler, élus par personne, et qui veulent imposer des millions de migrants que les populations ne veulent pas, tout en étant favorables à l'accueil de vrais réfugiés qui en ont besoin. Voilà une situation pour le moins inquiétante. L'interdiction des référendums voulus par ces politiques européens n'est qu'un révélateur d'un problème d'une gravité extrême et auquel il faudrait être bien davantage attentif. Je vous remercie.
Merci pour cet éclairage, Vivendi.